la fin de ce bulletin. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous à 10.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Dans l'Amérique, vous sur VOA Afrique, en votre compagnie depuis Washington DC, Eric Manilakiza. Ce soir, nous revenons sur le premier face-à-face Donald Trump-Joe Biden, un débat télévisé dans la course à la Maison-Blanche. L'électeur américain se rend aux urnes le 3 novembre pour choisir le futur commandant suprême. Avant ce rendez-vous ultime, deux autres débats sont prévus entre les deux candidats. Pourquoi ces élections aux États-Unis sont suivies chez vous et dans le monde entier? Quels commentaires ce débat Trump-Biden suscite-t-il à votre égard? En Afrique, les débats entre candidats sont moins intégrés dans les processus électoraux. Que pensez-vous de ce genre de débat devenu une tradition aux États-Unis et en Europe? Nous en parlons avec vous dans cette édition de l'Amérique et vous. Encore une fois, bienvenue. Nous avons Moïse en ligne depuis la RDC. Moïse, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Voilà, le débat présidentiel américain, c'est un débat qui vous intéresse, qui vous passionne. Vous voudriez-vous nous dire pourquoi?
Bon, en fait, c'est un débat qui a fait intervenir les deux présidents candidats aux prochaines élections. Et nous, les Africains, en général, sommes très intéressés. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu mondial. Il y a des enjeux mondiaux qui ont parlé là-dessus. Alors, c'est une façon de dire aussi ce n'est pas mauvais en face tant qu'adversaire pour les élections. Chacun donne ses projets de société, par exemple, sur quoi il doit faciliter lui. Et comme ça, la population aura une vision claire sur tel ou tel autre candidat à élire, à choisir, disons, pendant les élections.
Oui, en Afrique, les débats entre candidats sont moins intégrés dans les processus électoraux. Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, écouter des candidats chez vous exprimer leur projet de société?
Je serais très ravi de les voir en train d'exprimer leur projet de société, surtout à la télévision. Comme ça, c'est toute la population qui saura quel ou quel candidat on peut porter son choix pendant les élections. Parce que, vous savez, ici en Afrique, nous choisissons des fois et le président par les noms seulement. Soit dans d'autres parties, par exemple, du pays, il n'y a même pas l'électricité, mais ces gens donnent l'idée à quelle personne pour diriger le pays.
Mais ils s'expriment quand même dans les meetings de campagne.
Bien sûr, ils s'expriment dans des meetings. Mais vous savez, dans des meetings, par exemple, ici chez nous en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui parle là-bas parce que il y a des troubles, il y a des soucis, et c'est là, bon, les gens des fois ont peur parce que des meetings politiques, ça se transforme à des guerres des militants des partis, vous savez tout ça. Alors les gens ne savent pas comment écouter les candidats. Disons.
Mais dans les meetings, les candidats ne sont pas confrontés au débat d'idées.
Ah, c'est surtout ça aussi. Pendant les meetings, les candidats ne sont pas confrontés. Comment voulez-vous que les gens puissent savoir si tel ou tel autre candidat et on peut lui confier les droits d'être élu pendant ou de diriger le pays, disons. Cette confrontation-là, ça pourrait être aussi bénéfique pour la population africaine en général et celle de l'RDC en particulier, comme nous aussi nous attendons par exemple les élections pour l'année 2023. On aurait aussi souhaité qu'il y ait un débat pareil entre deux candidats favoris, disons.
Moïse, merci beaucoup et bonne soirée chez vous en RDC.
Ok, c'est moi qui vous remercie.
Voilà, nous retrouvons Robinson au Cameroun. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, monsieur.
Vous avez regardé ce débat entre le président Trump et l'ancien vice-président Joe Biden.
Ah, selon moi, ce qui est suivi, ça c'était un débat quand même, c'était chaud quand même. Hein? Selon moi, mon avis, Trump était un peu agressif. Hein?
Est-ce qu'il existe ce genre de débat chez vous, au Cameroun?
En Afrique, jamais ça. Même si même un jour, un débat, que juste, il peut dire qu'un représentant peut répondre à un président comme ça, c'est qu'on va le tuer. Bon, ça ne peut jamais exister, puisque le Cameroun et l'Afrique, ce sont les États dictatures. De sa compte, that are ruled by dictators, what I can say.
Les dictateurs, vous voulez dire?
Oui, oui, oui. Bon, et en Afrique, on impose, on ne demande pas votre avis. On impose, on dit que c'est comme ça. Si vous agissez, les militaires vont tomber sur vous.
Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce débat entre Joe Biden et Donald Trump?
La manière que Trump était critiqué et comme le président, il ne pouvait pas laisser. Biden a évoqué de nombreuses choses comme l'économie et plusieurs choses. Moi, ce qui m'a fait que Trump a essayé de lui défendre comme un président. Et selon moi, Trump, il a quand même fait. Il est un vrai président pour moi. Mmh. Bon, c'est que moi, je peux dire, c'est que Biden, elle a pas le. He doesn't have the. Let me say, the caliber.
Qui n'a pas assez de charisme pour être président, c'est ça?
Oui, 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 oui. Il a une voix, il ne cache pas ce qui lui dérange, il parle directement et il ça. Comme moi, ça, c'est une président. Un président ne s'agit pas de venir vous donner les faux pour. Et force de promis, il dit qu'il va vous faire ceci, il va vous faire. Et quand il est élu, il ne fait rien. Bon, pour moi, président Trump, il a une capacité d'être président, d'être élu en Amérique.
Et encore d'autres commentaires. Oumarou Ousmane Omar, il dit en Afrique, nos politiciens sont trop hypocrites. Ils ne connaissent rien, ils veulent seulement manger et détourner les fonds. Jean-Marie Gouessé, les USA, c'est la première puissance économique et militaire du monde. C'est également le pays qui accorde l'aide au développement de nombreux pays sous-développés du monde, notamment les pays africains. C'est également l'un des modèles de démocratie pour un certain nombre de pays africains. Par conséquent, les élections présidentielles dans ce pays sont suivies de près par ceux qui voudraient suivre ce modèle de démocratie. Les débats entre les protagonistes suscitent curiosité et intérêt, donc dans nos petits États, où les périodes d'élections sont synonymes de crises socio-politiques. Le dernier commentaire, c'est Médard du Rocher Bob. Les élections aux États-Unis sont suivies chez nous en RDC et dans le monde parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, nous sommes citoyens du monde. Pour mon pays, il y a de l'influence dans la politique. Le passage de l'un ou de l'autre, c'est très important pour que la politique extérieure du pays soit connue. Ça peut servir d'exemple pour l'Afrique. Il parlait donc de ce débat présidentiel américain. Salomon Mungindu, c'est une élection souvent moderne et transparente. Chacun se distinguera de ses arguments quand l'électeur va poser son bulletin de vote dans l'urne. Débat contradictoire, je vois ça, sauf intimidation. C C'était donc Salomon Munguindou. Robinson, merci beaucoup pour votre contribution et participation dans À votre avis. Excellente soirée chez vous au Cameroun.
Merci, merci à vous, monsieur. Merci. C'était un plaisir.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Recevons Jacques Bamogo, il est au Burkina. Jacques, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur.
Ça va très bien chez vous dans le pays des hommes intègres?
Oui.
Voilà, vous avez suivi ce débat. Vous dites que les débats sont souvent les moments où l'on peut percevoir la valeur réelle, du moins la personnalité du candidat.
Oui, oui. Vraiment, c'est ce que j'ai dit, puisque souvent, bon, c'est à travers le débat là qu'on sent vraiment, hein, à travers son argumentaire qu'on peut savoir à qui on a affaire. Puisque souvent les gars sont tapis dans l'ombre, c'est seulement lors des campagnes là, on lance deux ou trois mots et c'est fini. Mais lors d'un débat vraiment, on peut s'exprimer et l'auditoire saura à qui on a affaire. Et si on peut faire confiance, on fait confiance.
Est-ce que ce genre de débat existe chez vous?
Bon, pour le moment non. C'est juste les campagnes, lors des campagnes, bon, en bas campagne, seulement il n'y a pas de débat en tant que tel.
Est-ce que les électeurs chez vous souhaiteraient voir ce genre de débat instauré dans votre processus électoral?
Bien, si. En tout cas, à mon avis, moi, je trouve que c'est bénéfique.
Alors, j'ai le commentaire de Oumar Samake. Il dit « Ce genre de débat nous explique la démocratie aux États-Unis, que vous êtes exemplaire dans le monde. » Aimé Robert Nkala, il dit « Ce débat a présenté l'image réelle de l'Amérique et des Américains, comme l'avait présenté Eddie Murphy dans son film Un prince à New York, dans la partie où, quand ils sont arrivés aux États-Unis, à Queens Boulevard, avec son garde du corps, ils ont trouvé des gens qui se chamaillaient et il a dit à son garde du corps, écoute, les Américains, les vrais Américains, ils passent leur temps à se chamailler. Landry Senga, il dit, ça montrait des ambitions bien précises qu'un candidat a pour diriger le pays. Ça montre aussi l'importance du poste qu'il va occuper, les difficultés qui attendent le prochain président, etc. Jacques.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez aimé personnellement dans le débat?
Moi, personnellement, bon, pour moi, le débat était fructueux. En tout cas, bon, chacun s'est défendu à sa manière. Mais je pense que l'idée même du débat, déjà, c'est déjà bon. Voilà. Ça prouve déjà vraiment que chacun a des idées. On ne vient pas seulement au pouvoir parce qu'on veut venir au pouvoir. C'est ce que je pense.
Merci Jacques pour votre contribution. Je rappelle que vous êtes au Burkina Faso et vous allez avoir bientôt aussi des élections, n'est-ce pas?
Oui, bientôt, très bientôt.
Nous avons un autre auditeur en RDC, c'est Junior. Bonsoir.
Bonsoir.
Pourquoi toi personnellement tu es passionné par le débat présidentiel aux États-Unis?
La politique américaine, c'est une politique. Intéresse tout le monde, n'est-ce pas l'hégémonie américaine, hein, si je me fais comprendre, sa puissance économique et militaire et quand même diplomatique. Et dans ce sens, nous en tant qu'observateurs des relations internationales, on peut toutefois tirer notre attention pour voir donc, parce que ça prépare déjà, la psychose, ça prépare déjà qu'est-ce que serait l'Amérique dans les mois qui suivent. Donc, ce qui va conduire maintenant cette politique étrangère américaine, c'est celui qui va prendre maintenant, qui est cet homme qui va maintenant prendre la reine du pouvoir pour diriger une puissance économique mondiale. Et c'est par là, c'est aussi mon intérêt personnel. Parce que j'ai fait mes recherches scientifiques sur les partenariats, donc la diplomatie américaine à l'ère de la mondialisation. Et je suis persuadé que je dois tirer toutefois l'attention en ce qui concerne aussi la politique étrangère en Europe, la politique des États-Unis d'Amérique qui influence aussi sa politique étrangère. Parce que c'est la politique étrangère en France, Mali, c'est la politique étrangère. Donc, la politique étrangère, c'est la politique nationale. Et donc, si vous comprendre la politique américaine, si vous comprendre la politique étrangère des États-Unis, il faut d'abord s'intéresser de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Alors, pour comprendre cette politique, il faut partir des bases. Donc, de la base, c'est-à-dire comment se préparent les élections, comment se passent les élections aux États-Unis d'Amérique, comment est-ce organisé les débats démocratiques, comment les candidats, les présidentialistes se donnent pour faire avancer les jeux démocratiques. Et cet exercice doit aussi nous inspirer, les jeunes démocratiques pour prendre cet exemple.
Est-ce que c'est un débat qui passionne aussi les amis autour de vous ou dans votre communauté?
Tout à fait. Surtout, mes amis de l'université sont intéressés. Et surtout, quand j'ai fait des échanges, je pose cette question. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'innovation technologique, le monde est réduit. Donc, on n'a pas seulement les amis à contiguité géographique, nous avons aussi les amis qui sont de partout dans le monde. Et nous...
Ça vous enrichit au niveau des idées, ce genre de débat?
Oui. C'est une réflexion que les acteurs doivent se donner, donc les observateurs. Les observateurs, les scientifiques, les acteurs doivent se donner l'exercice de changer pour trouver un compromis.
Est-ce que les hommes politiques chez vous suivent ce genre de débat?
C'est bien vrai, nous sommes tous des hommes politiques, peuvent suivre ou pas, mais je suis sûr qu'un acteur politique, doit avoir un modèle. Et chaque acteur politique a un modèle. Alors, en tout cas, et surtout, parce que je suis sûr que, au pire, le modèle soit, par exemple, des candidats qui sont de débat, l'échange d'idées, ne peut que. Suivre ce genre de débat et à la longueur ou à la limite, faire ça comme un modèle de choix.
J'ai le commentaire de Fred Ndilou, il est au Congo-Brazzaville. Il dit « J'ai aimé ce débat, ça permet aux électeurs de bien connaître le projet de société de chaque candidat. Si mon pays pourrait adopter cela, ce serait bien. Les élections américaines influencent le monde entier parce que c'est la première puissance du monde. Junior, est-ce que ce genre de débat, vous le voudriez aussi chez vous?
Oui, ça fait que nous avons chez nous, pour mon RDC, on n'a pas ce genre de cet exercice établi. C'est que nous devrions voir un jour. Les candidats à l'élection présidentielle, par exemple, tout ce qu'ils veulent dans ce genre d'exercice, lequel on sait faire une idée, on sait faire bien, je dis bien, une idée d'un candidat et ce qu'il a à faire à sa population. Ce genre de débat nous dit, bien sûr, qu'on sait dire que certaines fois, vous savez, la vérité, c'est qu'elle se croit. Nous avons des gens qui arrivent au pouvoir sans un projet de société cohérent. Et sans même que les pères fassent. Donc, là, on a dit de comprendre le candidat. Or, avec ce genre d'exercice, le père, avant d'aller aux urnes, avant d'aller jeter sa carte dans les urnes, il saura comprendre ce qui est dans la tête de la personne qui veut se lire. C'est ça, vraiment. Bon, en tout cas, c'est. Un souhait ardent. La plupart de nous, les Africains, et surtout chez nous au Congo, nous souhaitons. C'est pas que j'ai suivi même le G7, le groupe parlementaire en RDC, qui se battent aujourd'hui pour vraiment répondre
les élections à deux tours. Or, chez nous, pour qu'on arrive, on en arrive à ce genre de débat entre les candidats, il faut qu'il y ait une élection à deux tours. Alors, ce genre de... Donc, quand il y aura les élections à deux tours, cela suppose que les deux candidats vont rester pour affronter. Et si la loi électorale le permettait, en tout cas, ça serait une très bonne chose. Pourquoi pas élire quelqu'un qu'on n'a pas encore compris ce qu'il y a dans sa tête. Alors, quand on n'a pas encore compris, on n'a pas compris la personne, on n'a pas compris ce qu'il a tenté pour réaliser pour son pays, en tout cas, on glisse parfois, permettez-moi le terme, on glisse le bulletin de vote par l'horaire et en gros, c'est n'importe qui et au finish, on se retrouve si je savais. C'est ce qui est vraiment très, très inquiétant et nous devons faire un effort à ce qu'un jour, même si pas aujourd'hui, et on en arrive à ce niveau qui va permettre à l'électeur, donc à la population, parce que dans le choix démocratique, c'est la majorité qui dirige. Mais nous, la majorité qui dit nos budgets de vote, nous devrions quand même savoir, quand même comprendre ce qu'il y a dans la tête et que les candidats présidentialistes, donc les hommes présidentiables, ou bien le député, ou bien le gouverneur des provinces, réalisés pour leur pays, province et ville. C'est vraiment une bonne chose. Donc, la politique, c'est pas pour rien que les grands penseurs ont dit la politique, c'est le débat d'idées. Et si le débat d'idées, c'est-à-dire, c'est idées contre idées. Idées contre idées, dans quel sens? Le candidat qui arrive, il n'a pas un projet de société cohérent, il ne sait même pas faire quoi, il ne sait pas quoi, et il arrive subitement dans l'arène du pouvoir, et il va se retrouver au chantier. Ça, c'est un adage qui se dit chez nous. Donc, c'est par l'effet du hasard que je me suis retrouvé, bon, je vais commencer à me débrouiller. Non, on doit avoir quand même des candidats qui s'y connaissent et qui ont quand même les idées cohérentes. Ce n'est pas pour rien que par moment, quand un Américain passe qu'il fait son bulletin de vote, il n'a pas le souci. Pourquoi? Il a d'abord compris. Il a d'abord compris la personne qui veut élire. Il faut comprendre la personne qui veut élire. Comprendre la personne qui veut élire, ce n'est pas par une compréhension subjective, mais il faut la comprendre par l'objectivité. L'objectivité, c'est que cette personne a dans sa tête ce qu'il compte faire et son même voire même ce qu'il a déjà à réaliser dans l'exercice ou bien dans son passé antérieur. Tout ça, ce sont les éléments qui ont compté et ça facilite aussi l'avancement de la démocratie.
Merci, Junior, pour votre contribution dans ce débat de la mairie et vous.
Merci, je vous en prie. Un grand merci pour moi de m'avoir soutenu pour cet échange.
La Commission pour les débats présentiels, un groupe non partisan qui gère ces événements depuis 1988 aux États-Unis, a fait savoir mercredi qu'elle allait prendre des mesures pour garantir l'ordre lors des deux prochains débats. Sans donner de précision sur les mesures envisagées, cette commission a déclaré qu'elle allait modifier le format des débats afin d'éviter le chaos observé lors du premier débat. Mercredi, il y aura le seul débat entre les deux candidats à la vice-présidence, Mike Pence et Kamala Harris. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ainsi s'achève cette édition de l'Amérique et vous. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à Michel Joseph pour la mise en onde. Eric Manelakiza vous souhaite un excellent week-end. À la prochaine.